Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur LNFM et vous écoutez La Clé des Champs, votre rendez-vous culture et patrimoine en Onis-Sud. Après une petite pause estivale, nous revoilà pour une nouvelle saison, prêts à explorer avec vous ce territoire riche, surprenant et toujours plein de surprises. Et ce soir, on commence avec Valéria.
Bonsoir Guillaume.
Valéria, tu reçois aujourd'hui Corinne Valade, romancière et auteure du roman Danse, Néomé Danse, qui a remporté le prix des lecteurs Onis-Sud 2024. Elle sera avec nous ce soir, et elle sera surtout à la bibliothèque de Landré le 15 novembre pour échanger avec ses lecteurs. Dans l'interview Valéria, tu plongeras avec elle dans son univers pour découvrir son roman, son lien à l'écriture et son actualité. Héloïse est également avec nous. Bonsoir Héloïse.
Bonsoir.
Héloïse, tu nous feras revivre aujourd'hui les journées européennes du patrimoine qui se sont tenues du 19 au 21 septembre dernier sur le site de la Villa Gallo-Romaine à Saint-Saturnin-du-Bois. Un week-end animé qu'on découvrira ensemble un peu plus tard dans le micro-trottoir. Et Renaud est là aussi aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver.
Renaud, pour le Zoom du jour, c'est Véronique Amance, animatrice de l'association En Avant-Première, qui viendra nous parler de l'association et de sa riche programmation. On vous retrouvera tous les deux tout à l'heure. Et puis on terminera notre émission avec l'agenda des sorties culturelles à venir sur Onis-Sud avec Valérie.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie. Et il y a pas mal de choses à voir dans les mois à venir sur Onis-Sud. Alors restez avec nous, on vous embarque pour 30 minutes au cœur de la culture et du patrimoine. C'est parti.
Bonsoir Corinne Valade.
Bonsoir.
Alors vous avez gagné le prix des lecteurs Onis-Sud 2024 pour votre roman Danse, Néomé, Danse. C'est un prix dont cette année on est à la 5e édition. Il est organisé dans les 17 bibliothèques du réseau Onis-Sud entre mars et octobre avec 5 romans à découvrir. Donc tout d'abord, félicitations pour
Merci
ce prix.
Merci beaucoup.
Dans votre roman Danse, Néomé, Danse, nous rencontrons Willy, Maurice, Néomé, dont les destins vont se croiser ici en Charente-Maritime, à Royan, La Rochelle, Aigrefeuille-Daunis, sur la période de 1945 aux années 60. Alors, Corinne Valade, pouvez-vous nous parler un petit peu de ces personnages ?
Oui, ce sont 3 personnages que j'ai voulu mettre en scène pour bien mettre en avant justement l'histoire de notre région, mais également l'histoire dans sa globalité, puisque c'est l'OTAN, c'est la militarisation en France par les Américains. Donc on a Willy, qui est un Afro-Américain, qui arrive effectivement à La Rochelle en 52, qui s'installe avec le camp et sa construction à Aigrefeuille-Daunis dans les années 50, et resteront jusqu'en 67. Pourquoi un Afro-Américain ? Parce que je voulais faire un parallèle également avec les États-Unis et l'évolution de la NACCP, la Société Civique des Noirs, dans cette période, puisqu'ils ont pu la faire évoluer grâce à leur présence en Europe. Nous avons effectivement Willy, qui est un creusois, et oui, ça ne s'invente pas, je suis d'origine creusoise, qui lui vient pour libérer les poches de La Rochelle et de Royan. Pour La Rochelle, évidemment, il y a eu des tractations, il n'y aura pas de problème pour céder La Rochelle, recéder La Rochelle. En revanche, pour Royan, c'est dramatique, il sera là pour déblayer Royan avec les 2 bombardements successifs alliés. Il sera tellement marqué par ce qu'il voit qu'il reviendra à Royan pour sa reconstruction. Donc c'est la reconstruction flamboyante du Royan qu'on connaît aujourd'hui. Et puis Néomé,
un prénom qui vient d'ici.
Oui, d'à côté de Niort. Néomé qui n'est pas, c'est pas anodin comme prénom, c'est une sainte qui avait une patte de canard, figurez-vous. Et ça m'a fait beaucoup sourire parce que Néomé va rester tabaillot, comme on dit ici, tabaillot un peu dérangé suite au bombardement de Royan. Et c'est à travers cette sage-femme qui est décalée qu'on va découvrir toute l'histoire de notre région. Elle nous fait rentrer dans les familles de La Rochelle et d'Aigrefeuille.
Donc oui, Corinne Valade, vous êtes charentaise maritime d'adoption.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce roman ? C'est suite à des rencontres, des lieux, Aigrefeuille-Daunis, ou alors des histoires qu'on vous a rapportées ?
Un peu tout ça. En fait, quand vous arrivez dans une région que vous ne connaissez pas bien, c'est quand même extraordinaire d'être romancière. Parce qu'on s'intéresse d'abord à ce qui se passe sur ce territoire, on va voir les gens, on apprend des choses. Et moi, je suis tombée sur ces ruines du camp d'Aigrefeuille d'Aunis et je me suis dit, mais c'est quoi ? C'est quoi ces friches ? Et quand on m'a dit que c'était le plus grand hôpital d'Europe américain pour préparer la Troisième Guerre mondiale, imaginez pour une romancière ce que ça représente. C'est formidable. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches. Il y a des sociétés d'histoire et d'archéologie dans notre région, à Croix-Chapeau, à Aigrefeuille. Vous avez beaucoup de personnes, parce que c'est quand même une histoire assez contemporaine, qui ont encore cette mémoire vivante. Et ça, c'est fabuleux, parce que j'ai parfois écrit sur des périodes où on ne trouve plus personne pour nous parler de ça. Là, vous êtes sur un territoire très riche, nous sommes sur un territoire très riche, et cette mémoire vivante est extraordinaire. Donc j'ai rencontré effectivement beaucoup de gens qui m'ont raconté ce qu'ils avaient vécu.
Vous abordez des thèmes forts dans votre roman, comme les séquelles de la guerre, le racisme, la place des femmes. Corinne Valade, ce sont des thèmes qui vous sont chers et que l'on retrouve également dans vos autres romans.
Oui. Tous ces thèmes-là, j'ai écrit sur les gueules cassées, sur les mutins de la courtine avec les services de santé de l'armée en 14-18, l'arbre des oublis sur les enfants réunionnais dits de la Creuse, donc le déracinement aussi. Pour moi, c'est important d'en parler. Dans Danse Néo-Médanse, il est effectivement question de Willy, qui lui est un afro-américain. Je parle du racisme parce que il y avait du racisme dans les camps américains en France. Terrible, hein. Et je fais un parallèle avec la vie de ce Willy aux États-Unis, puisqu'il va faire des allers-retours à Harlem et qu'il va faire, à sa manière, par la musique, évoluer la NACCP, la Société Civique des Noirs, qui va prendre un élan à ce moment-là de par leur présence, de par la présence des Afro-Américains en France, en Europe. Et les chanteurs aussi, les chanteurs de jazz, vont faire évoluer. Alors il va y avoir Malcolm X, hein, bien sûr, on va tomber dans l'extrême, et il y a Martin Luther King. Donc tout ça, c'est dans le roman. Il y a aussi une enquête sur le Ku Klux Klan, parce que le Ku Klux Klan n'a jamais été aussi fort après les deux guerres successives mondiales. Pourquoi ? Parce qu'on avait armé des Afro-Américains. Et ça fait très peur. Donc il y a effectivement le racisme, le déracinement, la place des femmes. Eh bien oui, la place des femmes est importante.
Néomé, un personnage avec un caractère fort.
Elle s'assume. Elle s'assume complètement. Elle va se reconstruire aussi suite au bombardement de Royan, où elle va rester ce qu'on appelle ici Tabayot. Et il va falloir qu'elle se batte pour trouver sa place au sein d'un hôpital, puisqu'elle est sage-femme, donc. Et là, c'est compliqué parce que jusqu'à maintenant, les femmes commençaient tout juste à travailler, mais elles n'avaient pas vraiment une place dans les familles. Il faut savoir que les femmes ont eu un chéquier en 1960. Là, on démarre le roman dans les années 50. Imaginez le chemin qu'on a parcouru. Et puis oui, se reconstruire après un choc psychologique, ça c'est quelque chose qui m'attire énormément depuis que j'ai travaillé avec les gueules cassées. Parce qu'effectivement, alors quand on est défiguré, ça se voit, mais quand on a quelque chose de psychologique, je travaille aussi, je suis marraine d'une association qui lutte contre la spondylarthrite ankylosante, en tous les cas pour faire reconnaître cette maladie invisible. Eh bien voilà, toute cette invisibilité du handicap est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut en parler, plus on en parle, plus on va ouvrir les gens à ce qui se passe, plus ils vont comprendre pourquoi parfois des personnes ont des réactions qui peuvent les surprendre. On peut être malade sans que ça se voit. Et quelqu'un qui a une blessure psychologique très grave a besoin d'un suivi psychologique. Et ça, il ne le sait pas forcément, mais il a besoin d'entourage aussi. Donc tout ça se retrouve dans mes romans parce qu'il est essentiel de parler des choses. Pour moi, je le répète, c'est vraiment un acte politique d'écrire.
Et donc Danse Néomé Danse est paru en 2023 aux éditions de Boré. Il est réédité cette année aux éditions Terre de l'Ouest. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix Aunis Sud.
Oui.
Votre roman a reçu un accueil très enthousiaste de nombreux lecteurs. Pouvez-vous nous partager des retours marquants que vous avez reçus du public ?
Ah, ça c'est extraordinaire, le retour des lecteurs. Depuis plusieurs années, j'ai toujours des petits mots absolument adorables. Parfois un petit peu moins, on peut pas plaire à tout le monde, hein, il faut pas exagérer non plus. En ce qui concerne Danse Néomé, oui, beaucoup, parce que dans la région, les gens ont été très marqués par cette présence américaine, mais même sur notre territoire en général, parce que je fais des dédicaces un petit peu partout, et à chaque fois on me dit « Oh, mais j'ai bien connu !» Il y en a qui ont été pour cette présence américaine, d'autres beaucoup moins. On avait quand même eu une occupation allemande juste avant. Et puis au niveau politique, c'était quand même très serré. Au niveau géopolitique, c'est impressionnant, cette période quand même des années 50 et 60. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est un monsieur afro qui m'a téléphoné en me disant « Écoutez, voilà, je suis le fils d'un GI afro-américain, je le sais. Ma mère était normande. Elle ne m'a jamais parlé de mon père, et grâce à votre livre, j'ai eu l'impression d'entrer en communication avec un père que je n'ai jamais connu. Et il a eu une forme de résilience. Il a combattu toute sa vie le fait de ne pas savoir qui était son père, d'imaginer que sa mère avait peut-être été violée. Il a pas su ce qui s'était passé. Sa mère est restée silencieuse. Ça aussi, c'est quelque chose de terrible pour un enfant de ne pas savoir qui était son père, quoi qu'il ait fait. Et il a mis enfin une âme, en fait, à ce père imaginaire, enfin imaginaire, imaginé, et ça lui a fait beaucoup de bien, et je vous avoue que c'est vraiment le témoignage qui m'a le plus marqué.
Oui, toujours le rapport au tabou dans la famille, les secrets de famille, vos romans quand même permettent de redécouvrir son histoire.
Oui, et dans les romans, je précise toujours que la transmission est essentielle. Vous traînez toute votre vie les chaînes d'un secret de famille. Toute votre vie, mais pas que la vôtre. Celle aussi de vos enfants, de vos petits-enfants. Un jour ou l'autre, ça se retrouve. Gaëlle Nohant en parle beaucoup dans Le Bureau des éclaircissements. J'aime beaucoup cette autrice. Et c'est essentiel de savoir d'où on vient, parce que si vous n'avez pas de racines, vous êtes sur du sable. Et comment se construire quand on est sur du sable? J'en parle dans L'Arbre des oublis, parce que je suis allée plusieurs fois à La Réunion rencontrer des déracinés. Et c'est terrible, en fait. Et à l'adolescence, souvent, on bascule. C'est une période dure, l'adolescence. Et si on n'a personne pour se soutenir, c'est difficile.
Oui, donc vous êtes autrice de plusieurs romans. Hein. Comment définissez-vous votre rapport à l'écriture? Mais j'allais vous demander aussi à la lecture, votre relation aux bibliothèques, aux auteurs, comme vous parliez de Gaëlle Nohant, hein, qui compte pour vous dans votre quotidien.
Ah oui, Sort Chalandon, Yasmina Kadra, Leila Slimani, souvent des gens qui ont connu le déracinement d'ailleurs. Oui, alors, je ne peux pas me passer d'une bibliothèque. Ça fait 35 ans que je suis bénévole dans des bibliothèques. Quand je suis arrivée à Aigrefeuille d'Aunis, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la bibliothèque, rencontrer les gens de Livrefeuille, qui est notre association extraordinaire d'Aigrefeuille d'Aunis. Je ne peux pas me passer de livres, c'est pas possible. Je lis environ 80 livres par an. J'organise une causerie autour des livres depuis plusieurs années, où on présente des auteurs. Un livre, c'est un peu comme une forêt. Vous entrez dans une bibliothèque comme vous entrez dans une agence de voyage, mais aussi comme dans une forêt. Vous posez votre front sur des couvertures et là, vous imaginez tout ce qu'a voulu dire l'auteur et tout vibre dans une bibliothèque. Vous avez des personnages absolument partout là qui sont prêts à vous raconter leur histoire. Mais c'est fabuleux. Ça vous nourrit.
Ça vous nourrit dans votre écriture après.
Complètement. Oui. Ah bon, non seulement ça nourrit mon écriture, mais ça me nourrit aussi personnellement. Et ça, j'en ai besoin. Je ne pourrais pas écrire sans rencontrer des gens, mais sans rencontrer les personnages. Parce que des personnages, c'est quand même des personnes à part entière. Ce ne sont pas des petites choses comme ça. Bon, je suis marionnettiste, donc oui, mes marionnettes, c'est pareil. C'est des personnages. Donc oui, ça nous accompagne complètement. C'est fabuleux.
Alors, vous préparez la sortie d'un nouveau roman, je crois?
Oui.
Vous pouvez nous parler un peu de votre actualité?
Allez, avec grand plaisir. Mais vous trouverez tout sur mon Facebook. Corinne avec un seul R et un seul N, s'il vous plaît, point valade. Oui, ce sera Noé, l'enfant de la liberté. Là encore, c'est une histoire extraordinaire, difficile aussi, de Maitrey, qui était une colonie agricole pénitentiaire pour les enfants déviants à la moitié du 19e siècle. C'est un endroit où on a formé les premiers éducateurs spécialisés. Et ça, c'est génial. Quel dommage qu'on ait oublié tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient éclairés par les lumières. C'est Rousseau. C'est se ressourcer par la nature. Réintégrer une société progressivement en redécouvrant la nature, le travail de la nature. Ça, c'est fabuleux. On y revient. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en absence de sens retournent à la nature. Donc, il me semblait essentiel de parler de cette colonie agricole.
Vous avez aussi fait des recherches pour...
Oui. Il faut compter environ entre 1 an et 2 ans de recherche avec l'écriture. C'est très long. Et puis, il faut intégrer le sujet. Donc, mais c'est ma passion. Ma passion, c'est l'histoire avant tout et la transmettre. Et vous, la transmettre.
Eh bien, merci Corinne Valade, merci à vous.
Et merci à tous les éditeurs, merci de m'avoir reçu dans cette émission d'Hélène FM.
Merci Corinne Valade d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci Valéria. On rappelle donc que vous pourrez retrouver Corinne Valade à la bibliothèque de Landré le samedi 15 novembre à 15h. Et puis toujours dans le cadre du prix des lecteurs, mais cette fois-ci pour l'édition 2025, le réseau des bibliothèques vous donne également rendez-vous le 22 novembre à la salle des fêtes de La Devise pour l'annonce des résultats qui sera suivi du spectacle Monsieur Madame de la compagnie L'œil qui frise. Et maintenant, on passe au micro-trottoir avec Héloïse qui était sur le site de la Villa Gallo-Romaine à Saint-Saturnin-du-Bois pour les journées européennes du patrimoine. Alors Héloïse, comment c'était ?
Beaucoup de temps forts ont rythmé ces journées européennes du patrimoine. Et pas qu'à la Villa Gallo-Romaine d'ailleurs, ces journées européennes du patrimoine ont débuté vendredi 19 septembre avec la visite du chantier de fouilles de Saint-Georges-du-Bois avec l'archéologue Bastien Gissinger. C'est une visite exceptionnelle. Et ces journées européennes du patrimoine se sont achevées par la comique représentation de la cuisine d'Ésope, des compagnies Lauré du Bois et des culottés à la Villa Romaine de Saint-Saturnin-du-Bois. On a également été, on s'est régalé par les petits pains de la ferme du Bois de Treuil, qui ont été cuits dans le four à pain de style pompéien. Mais là, aujourd'hui, je vais revenir sur la journée du 20 septembre, au cours de laquelle les visiteurs ont été émus par la représentation de fragments d'ailes, à la Villa Romaine, toujours. Une création alliant théâtre et danse, portée par la compagnie Déculottée et l'association Évidence. Cette création rend hommage aux héroïnes de l'histoire pour ces journées européennes du matrimoine.
Je garde le feu sacré, je nourris la flamme, je parle aux dieux, mais ma voix n'est pas la mienne, elle leur appartient. Mais là encore, qui raconte ces femmes ? On se souvient des cultes, des rituels, mais pas des visages, pas des vies. Comme si le sacré ne laissait pas de place à l'intime. Alors je pense à Atalante, une héroïne grecque, une autre voix très loin d'ici, abandonnée à la naissance parce qu'elle était fille, recueillie par une ours, nourrie de lait sauvage. On m'a rejetée, mais la forêt m'a accueillie. Ma mère était une ours, sa force a traversé mon sang. Je n'ai pas appris à obéir. J'ai appris à survivre.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis Maxime Godelin, le président de l'association Évidence. Je suis dans cette association depuis l'âge de mes 7 ans d'ailleurs.
Alors, je m'appelle Mathilde Perrault, je suis professeure de danse. Ça fait depuis 10 ans maintenant que j'enseigne.
Pouvez-vous me parler du processus de création de la pièce Fragments d'ailes avec Delphine Robin de la compagnie Déculottée ?
C'était vraiment incroyable de découvrir ces vestiges. J'ai tout de suite eu des images en fait dans ma tête. À la suite de ça, j'ai recherché des musiques qui pouvaient m'évoquer en fait mes ressentis. Des musiques assez instrumentales, d'autres portées par la voix. J'ai ensuite échangé avec Delphine et Delphine a eu une très très belle idée et je l'en remercie parce que vraiment c'était très très bien amené. C'est que une figure féminine et Delphine qui représentait une archéologue se rencontrent au milieu et échangent un contact au milieu d'un cercle entouré de danseurs. Et je pense que ça a ému beaucoup de gens qui ont vu la pièce.
Je suis très ravie d'avoir pu participer à cet événement-là. D'ailleurs, toutes les filles de mon groupe ont aussi été très contentes d'être présentes pour cette journée du matrimoine. On a dansé dans un cadre magnifique, donc très content d'y avoir participé et à refaire.
Voici d'autres témoignages recueillis.
J'ai beaucoup aimé l'ensemble entre la présentation théâtrale où moi j'étais vraiment accrochée aux lèvres de Delphine, ce qu'elle nous a raconté, mais vraiment c'était très prenant, c'était la vie de diverses héroïnes, alors soit gallo-romaines, soit barbares, et c'était imagé, alors elle nous mettait soit un serre-tête, soit un beau collier pour représenter l'héroïne en question. On était vraiment accrochés à ses lèvres et effectivement ça s'enchaînait avec Donc les déambulations de la troupe de danse.
J'ai été ébahie par l'intégralité du spectacle. Je trouve que Delphine a admirablement incarné les différentes héroïnes de l'histoire par cette mise en scène qui a été parfaitement sublimée par la troupe de danse, évidemment. Elle a su mettre en lumière les problématiques liées au patriarcat qui perdurent encore aujourd'hui et qui ont commencé à l'Antiquité.
Passe à la suite. Et pour notre Zoom du jour, Renaud accueille Véronique Amans de l'association En Avant-Première.
Bonsoir Véronique.
Bonsoir Renaud.
Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes l'animatrice de l'association En Avant-Première. Votre structure propose des ateliers, des activités artistiques, des expositions entre autres. Pouvez-vous nous présenter votre association et nous parler plus précisément de vos divers événements ?
Alors, je vais commencer par parler du Festival des Écritures qui s'est terminé et qui a été un moment extraordinairement sympathique, où vous avez participé, vous, au conservatoire avec le conservatoire Se fait des films, parce qu'on avait mis une petite focale là-dessus cette année. Et puis sinon, à l'association, ce Festival des Écritures, c'est notre moment fort. Hein. On a aussi la folle journée de l'écriture au mois d'avril. Mais toute l'année, c'est un lieu très vivant où il y a des ateliers d'écriture. C'est le fleuron de l'association. Il y a, comme on a un joli espace, il y a des soirées où on chante, il y a des soirées où on a des conteurs, où on a des auteurs. Donc c'est très très divers. Et surtout, cette année, la nouveauté de l'association, c'est qu'on a maintenant, et c'est en lien avec le conservatoire, on peut dire, on a maintenant un professeur de chant qui s'appelle Coqui de Maya, qui est une artiste, parce qu'elle fait de la scène, mais elle est aussi formatrice. Elle vient d'un centre professionnel de formation. Elle a fait aussi professeur au conservatoire, et donc on l'accueille cette année. Et ça, c'est notre grande nouveauté, parce que c'est une ouverture vers une nouvelle activité à l'association.
Cette nouveauté justement qui démarre depuis septembre, il me semble.
Oui, voilà, tout juste.
Accueille déjà pas mal de participants.
Alors ça commence, puisque faut quand même toujours un petit peu le temps que les gens sachent qu'il y a cette nouveauté, mais ça commence. Elle a proposé des cours collectifs et des cours individuels. Voilà.
Super. Cette année, je crois que vous avez un fil rouge qui est le cinéma, puisque il y avait à la fois donc le Festival des Écritures qui était sur cette thématique, mais il me semble que vous avez aussi un projet avec le Palace.
Alors, on a un projet avec le Palace. Ben, je pense que ça sera en juin. On a le temps d'en reparler. J'espère que vous nous réinviterez pour qu'on en cause, comme on dit. Hein. Et puis oui, toute l'année, nous, on va. Il y a toujours un petit moment où on retrouve en fin d'année une sorte de fête associative, et là le thème ça sera le cinéma, et avec l'école buissonnière de la chanson, puis notre nouveau prof de musique et de chant, Coqui de Maya, on va chanter le cinéma, c'est-à-dire que nous, les petits participants des ateliers qui vont écrire des textes sur le cinéma, sur leurs films, etc. Et puis il y aura c'est toujours lié avec en même temps les chansons qu'on aime, et donc le thème du cinéma, c'est porteur. Il y a tellement de belles chansons. Donc ça, c'est notre soirée, mais c'est en juin, on en reparlera aussi.
Oui, tout à fait.
Mais ils vont bosser toute l'année sur le cinéma, ça c'est sûr.
L'association semble avoir une forte dimension participative territoriale, en s'adressant non seulement aux artistes, mais aux habitants, et en proposant des activités ouvertes au public, de la formation, des ateliers.
Alors, les ateliers d'écriture existent depuis 15 ans, donc à l'association, mais nous avons plusieurs animatrices. On fait des ateliers d'écriture en médiathèque, en centre social, donc bien sûr ça rayonne sur le territoire. Personnellement, j'anime des ateliers autobiographiques, c'est-à-dire que j'ai suivi une formation pour me spécialiser, pour bien aider les gens à écrire leur autobiographie. C'est un module particulier qui nécessite
un cadre très précis parce que on ne peut pas, je ne suis pas psy, hein, c'est sur le cadre là de l'écriture. Voilà, par exemple. Et moi-même, je suis biographe et j'écris la vie des gens et j'adore ça.
Ben merci beaucoup. On peut vous retrouver sur un site
En avant-première.info.
Merci beaucoup Véronique et merci. À très bientôt.
Merci de m'avoir accueilli. À bientôt.
Merci Renaud et merci Véronique. Et je crois qu'on peut vous retrouver également sur Facebook, le Facebook En avant-première 17.
Tout à fait, absolument.
Merci Véronique. On retrouve maintenant Valérie pour terminer cette émission avec les sorties culturelles à venir sur Onis Sud.
On commence cet agenda culturel avec le 18 octobre à 14h30 à la salle du Lavoir à Surgères, où le réseau des bibliothèques, dans le cadre de la Fête de la Science 2025, organise une conférence avec la neuroscientifique Mélissa Bonnet sur le thème « Écran et apprentissage, quel impact chez les jeunes ?» L'entrée est libre. Puis, pendant les vacances d'octobre, du 20 au 24 octobre, les ateliers théâtre seront proposés aux enfants de 8 à 12 ans, à la bibliothèque du Tout avec la compagnie Laurée Dubois et à la bibliothèque de Saint-Germain-de-Marancène à Saint-Pierre-Lanoux avec la compagnie Déculottée. Ces ateliers sont gratuits, mais sur inscription directement auprès des bibliothèques. À Saint-Georges-du-Bois, c'est un jeu de piste, une rando-carto, qui vous est proposé le mercredi 22 octobre. Sans inscription, venez directement à la bibliothèque, en famille, entre 10h et 16h, pour prendre le départ, résoudre des énigmes et découvrir la nature et le patrimoine de Saint-Georges-du-Bois. Enfin, toujours dans le cadre de la Fête de la Science 2025, des ateliers autour de la robotique, destinés aux plus jeunes, auront lieu à la bibliothèque du Tout, le 5 novembre et le 3 décembre. En novembre, on poursuit nos sorties culturelles avec le vendredi 7 novembre à 20h30, au Palace, le groupe Pendragon, formation de musique actuelle, issue du Conservatoire de musique Onis Sud, qui montera sur la scène du Palace pour assurer la première partie du groupe Les Fils du Facteur. Une belle occasion de découvrir de jeunes talents locaux, dans une ambiance chaleureuse et festive, avant de plonger dans l'univers poétique et décalé du quatuor suisse programmé par le Palace. Le 15 novembre, à 15h, à la bibliothèque de Landré, vous pourrez rencontrer l'autrice Corinne Valade, lauréate du prix des lecteurs Onis Sud 2024. Et pour connaître le lauréat ou la lauréate du prix des lecteurs 2025, rendez-vous le 22 novembre à 15h à la salle des fêtes de la Devise, avec en première partie le spectacle Mesdames, Messieurs de la compagnie L'œil qui frise. On continue en musique, où le mercredi 19 novembre à 18h30, le conservatoire vous invite à un moment musical unique à l'église Notre-Dame de Surgères. À l'occasion d'une audition des élèves, la puissance de la trompette et la richesse de l'orgue dialogueront dans un programme varié, naviguant du répertoire classique aux pièces plus contemporaines. Venez découvrir et encourager de jeunes musiciens dans le cadre majestueux de l'église. Enfin, le samedi 22 novembre, c'est l'Orchestre d'harmonie de Surgères qui vous invite à célébrer la Sainte Cécile, la patronne des musiciens, lors d'un concert exceptionnel à 20h30 au Castelparc à Surgères. Venez vibrer au son d'un programme varié, mêlant classique, musique contemporaine et pièces festives interprétées par nos talentueux musiciens. Un moment convivial ouvert à tous pour partager ensemble l'émotion de la musique. Notez enfin qu'entre le 18 novembre et le 6 décembre, plusieurs soirées de ciné-débat sur le thème de l'alimentation se dérouleront dans plusieurs bibliothèques du réseau. L'ensemble de la programmation sera à retrouver sur le site internet du réseau des bibliothèques.
Merci Valérie pour cet agenda. L'émission La Clé des Champs touche à sa fin. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast en ligne sur lnfm.com ou sur le site de la communauté de communes Onis Sud. On se retrouve dans 2 mois et d'ici notre prochaine rencontre, on vous souhaite de vous laisser guider par la musique, les lieux et les histoires et de profiter de chaque petite curiosité qui croise votre chemin sur Onis Sud.